mercredi 1er décembre 2021, il est midi, vous écoutez le magazine de Canal Sud. Salut à toutes et à tous. Comme je disais, il est midi. 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le VIH, contre le sida. Et c'est pour cette occasion qu'on sera en compagnie jusqu'à 13h de deux membres de l'association ACT UP pour justement parler de leurs actions aujourd'hui, puisqu'il y aura un stand associatif de 10h à 17h, donc c'est déjà le cas sur l'esplanade du métro Jean Jaurès, suivi ce soir par une manifestation revendicative à 18h, départ du même endroit à Jean Jaurès. Mais ça, on en parlera juste après les petites infos, le petit agenda de la journée, puisqu'aujourd'hui, il y a un programme bien chargé en termes social, puisqu'il y a une action coup de poing contre la réforme de l'assurance chômage par l'intercollectif Interlutte, des citoyennes, des gilets jaunes, des précaires, aux arts, etc., la coordination des intermittentes et précaires des Midi-Pyrénées, le droit au logement 31, la CNT 31, et j'en passe et j'en oublie. Mais aussi, voilà, des artistes, des opposants à la réforme de l'assurance chômage vous proposent de mettre en commun leurs forces pour porter des revendications le temps d'une action coup de poing commune visant une cible symbolique dans la ville. Rappelez-vous, des camarades justement du collectif Aux Arts, etc., nous avaient parlé un petit peu de ces actions-là, du choix de prendre une cible symbolique à Toulouse et d'aller devant... protester, manifester, faire une action, quoi. Donc, en tout cas, le rendez-vous est donné, c'est tout à l'heure, à 14h, au métro Jean Jaurès. Prenez un petit ticket de métro et en avant toute. Ce soir, il y a aussi une discussion à La Chapelle. C'est ce lieu associatif militant au 36 rue Daniel Casanova. C'est une discussion qui s'appelle Abstention 2022, donc qui vous invite à une discussion sur l'abstentionnisme et l'anti-électoralisme ce mercredi 1er décembre à La Chapelle à 17h30. Il et elle sont quelques personnes à réfléchir à ce que ça veut dire de s'abstenir de voter lors des prochaines élections présidentielles en avril 2022 et ce que ça peut impliquer. Plutôt convaincue de ne pas vouloir participer à cette mascarade politique, elles ressentent quand même le besoin d'en discuter à plusieurs, d'échanger des points de vue, d'archiver des documents sur cette question, en produire d'autres, afin de pouvoir revendiquer une abstention active, réfléchie, inspirante, qui pourrait, pourquoi pas, peser un certain poids dans l'issue, toujours malheureuse, de cette grande messe votarde, comme il et elle l'appellent.
Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt, nobody knows you when you down and out. I mean when you down and out.
De bientôt 7 minutes sur Canal Sud 92.2. Aujourd'hui, mercredi 1er décembre, journée internationale de lutte contre le VIH, nous accueillons deux membres de l'association ACT UP Sud-Ouest qui, donc, comme je le disais en introduction, propose un stand associatif de 10h à 17h sur l'esplanade Jean Jaurès, suivi d'une manifestation revendicative à 18h. Salut à vous, est-ce que vous avez envie de dire vos prénoms ou pas, je ne sais pas.
Alors moi je suis Simon, je suis militant à ACT UP depuis un peu plus de 2 ans et maintenant membre du bureau de l'association. Et je suis avec
Romain, bonjour, moi je suis militant à ACT UP depuis 2 ans, depuis mon arrivée à Toulouse.
Bah, merci à vous, donc j'avais préparé une petite intro mais ça va peut-être pas... Ce qu'il faut peut-être rappeler par rapport à la maladie du sida, c'est qu'elle est un peu le reflet des inégalités d'accès aux soins entre les pays et les continents, même si aujourd'hui on va plus particulièrement parler du cas de la France. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut quand même avoir à l'esprit pour aussi comprendre les discriminations dont on va parler qui sont liées à l'accès aux soins pour les malades étrangères. Ainsi on peut dire qu'en France les personnes séropositives bénéficient relativement d'une bonne prise en charge par la sécurité sociale, si tant est qu'on accepte de rentrer voilà dans un parcours médical qui inclut lui aussi des formes de contrôle social, de contrôle du corps, voilà. Donc cette prise en charge médicale des patients séropositifs nous amène alors à questionner peut-être aujourd'hui les discriminations, en l'occurrence celles qui n'ont pas les discriminations envers les personnes qui n'ont pas la nationalité française, mais aussi peut-être le poids de la pandémie de Covid-19 sur les actions de prévention et d'accès aux soins pour les personnes séropos. Peut-être pour introduire un petit peu, puisqu'on va rester une petite heure ensemble, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu l'association dans laquelle vous êtes, un petit peu le paysage de cette lutte, de cette prévention contre le VIH, et puisque c'est un peu l'objet de cette journée du 1er décembre, de nous proposer un petit état des lieux de cette épidémie, en l'occurrence en France.
Alors moi je vais commencer par, avant de présenter notre association, par présenter le collectif avec lequel on tient effectivement un stand d'information aujourd'hui au métro Jean Jaurès sur l'esplanade François Mitterrand. Donc c'est le collectif Toulouse Action Sida qui réunit les associations Griselidis, Jules et Julie, ENIPS, AIDE, ACT UP et des associations d'étudiants en médecine. Voilà, c'est un stand qui se tient aujourd'hui de 10h à 17h à Jean Jaurès et qu'on est très content de tenir puisqu'il n'a pas eu lieu en fait l'an dernier Donc c'est un peu l'an dernier, il y avait eu simplement un rassemblement sur la place du Capitole et finalement c'est assez représentatif du fait que pour nous une épidémie commence à en cacher une autre puisque ça fait à peu près 2 ans qu'on parle beaucoup moins de l'épidémie VIH. Et maintenant je peux présenter un peu plus ACT UP Sud-Ouest. ACT UP Sud-Ouest qui est une association qui a passé ses 30 ans l'an dernier, qui est toujours là, qui est une association de lutte contre le VIH-SIDA, qui a plusieurs pôles d'activité, une permanence sociale qui se tient les mardis et jeudis à l'espace des diversités, une grosse activité de prévention, et un pôle qui est plutôt un pôle de plaidoyer, donc de représentation de l'association auprès des institutions publiques, mais aussi qui est très présente dans la coordination nationale des associatives et politiques des luttes contre le VIH-SIDA.
Prends la suite pour la présentation des activités militantes. Donc on est plusieurs à donner beaucoup d'énergie et de temps dans les activités militantes d'ACT UP Sud-Ouest qui sont là pour soutenir les pôles que Simon vient de décrire. Donc ça peut être de l'aide au plaidoyer, par exemple en organisant des manifs, en rédigeant des communiqués de presse, etc. Il peut y avoir aussi on peut organiser des soirées de soutien, ce qui nous permet aussi de tenir des tables de prévention par exemple, etc. Il y a aussi des permanences dans lesquelles on est engagé. Donc il y a la permanence de convivialité qui va recommencer l'année prochaine, sans doute en février. Ce sera le samedi, les premiers samedis du mois à l'EDL. Et puis il y a aussi une permanence qui a lieu en ce moment, qui a lieu tous les mercredis de 6h30, de 18h30 à 21h. C'est une permanence LGBT, enfin pour les personnes usagères de drogue LGBT. C'est aussi une permanence de convivialité où les gens peuvent discuter de leur conso, etc. Donc voilà, et ça se passe au Carud Intermède, à côté d'Escarol. Voilà.
Alors justement, peut-être, merci pour cette présentation. Hors antenne, justement, on discutait un petit peu de cette nécessité de présenter un petit peu cet état des lieux de l'épidémie, puisque il y a un peu une sorte de changement dans les représentations, comme quoi on en aurait terminé, une certaine forme d'accès aux soins et des thérapies en fait qui aujourd'hui permettent aux personnes séropositives de vivre presque comme une personne qui serait pas malade. Ça en vient à invisibiliser peut-être cette maladie. Du coup, est-ce que vous pouvez faire un petit point là-dessus sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2021?
Alors l'épidémie est loin d'être terminée. On est en France sur les dernières années sur un nombre à peu près constant de découvertes de séropositivité qui tourne autour de 6700. Avec là une grosse difficulté qui revient, qui est à l'image de quand je dis qu'on oublie un petit peu l'épidémie. C'est que la difficulté des nouveaux chiffres pour 2020, c'est qu'on a l'impression, en fait, que l'épidémie recule, puisqu'on a des chiffres en énorme baisse sur les découvertes de séropositivité pour l'année 2020, mais qui sont en fait représentatifs d'un retard énorme pris dans les dépistages. On a sur l'année 2020, donc qui a été marquée par 2 confinements au moins, 1 million de moins de sérologies VIH qui ont été réalisées en France, donc et qui n'ont jamais été rattrapées en fait. Donc on a eu un retard dans les dépistages, mais pas non plus derrière un rebond qui aurait pu compenser finalement ce retard-là.
Comment on explique ça du coup? En fait, c'est parce qu'il y avait peut-être fermeture des centres de dépistage, moins d'accès. Comment?
Alors, pas forcément fermeture, non, mais en tout cas, les personnels de soins étaient bien occupés. Et ça s'est vraiment ressenti dans l'accès aux soins, particulièrement en termes de santé sexuelle. Ici à Toulouse, il y a le CEGID qui est le centre gratuit de dépistage qui se trouve dans le centre-ville. Son accès a été assez fortement limité pendant la période de Covid, pendant les confinements, sur prise de rendez-vous préalable uniquement. C'était compliqué et on s'en est bien rendu compte en tant qu'asso communautaire et de personnes qui utilisent ces centres de soins. On a bien vu que c'était plus compliqué d'accéder à ces soins pendant cette période-là.
Et donc, ce qui pourrait finalement être une bonne nouvelle pour 2020, c'est-à-dire qu'on a une chute de 22% de découverte de séropositivité pour l'année, sur l'année dernière, qui tourne autour de 4900 pour ce qu'on estime des données corrigées. Nous, plutôt, ce chiffre-là nous inquiète si on le met en regard du retard des dépistages, c'est-à-dire que on a peur que finalement ce qu'on appelle l'épidémie cachée grandisse. L'épidémie cachée étant le nombre de personnes qui vivent avec le VIH sans connaître leur statut sérologique. C'est des personnes qui, du coup, n'ont pas accès aux soins, mais aussi qui présentent un plus gros risque de transmettre le virus comme elles ne connaissent pas leur statut sérologique. Donc, à voir pour les prochaines années, mais on est plutôt, globalement, les associations, là, estiment que on a pris du retard, finalement. On a pris un retard sans précédent et historique dans la prise en charge de l'épidémie et dans les objectifs qu'on a pour les années à venir de fin de l'épidémie VIH.
Et pour les personnes qui sont diagnostiquées comme séropositives, il y a est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une prise en charge qui est suffisante ou satisfaisante à ce niveau-là, peut-être pour présenter de manière un peu générale avant de rentrer dans les détails de cette prise en charge et justement des discriminations que vous mettez en lumière.
Alors nous, on travaille beaucoup. On estime que cette prise en charge pour les personnes qui ont déjà accès aux soins, elle est à peu près satisfaisante. Par contre, notre colère et notre inquiétude, mais aussi notre colère, va vers les freins qui empêchent les personnes d'accéder à cette prise en charge médicale, voire les freins qui perdurent même quand la prise en charge commence. Ce sont des freins qui touchent en fait aux autres, caractéristiques des personnes, qui sont les personnes qui sont les plus touchées par l'épidémie. Et du coup, on voit que l'arsenal répressif actuel de notre gouvernement, en fait, a un véritable impact sur les politiques de santé et sur la prise en charge des personnes. Je pense qu'on peut prendre plein d'exemples, mais on peut commencer d'abord, tu en as parlé tout à l'heure, par parler des personnes étrangères.
Et oui, et du coup, je propose peut-être de faire une courte pause musicale et de pouvoir consacrer une partie tout à l'heure. On se retrouve dans 3 minutes.
And some southern queen is acting loud and mean, where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderellas and some leather drags I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure, especially to be here without you. There's the Born Again Losers and the Lavender Boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D are Tinkerbell and tights. This celebration somehow gets me down, especially when I see you're not around. There's no Peter Pedantic saying things romantic in Latin, Greek, or Spic. There's no Three Bananas or Brandon Alexander dishing all their tricks. It's a different feeling that I have today, especially when I know you've gone away. There's a girl from Soho with a t-shirt saying I blow. She's with the Jive 5, 2 plus 3. And the girl for pay dates are giving cut rates or else doing it for free. The past keeps knock, knock, knocking on my door, and I don't want to hear it anymore. No consolations, please, for feeling funky. I gotta get my head above my knees. But it makes me mad, and it makes me sad, and then I start to freeze. In the back of my mind, I was afraid it might be true. In the back of my mind, I was afraid that they meant you. The Halloween parade. At the Halloween parade. At the Halloween parade. See you next year at the Halloween parade.
Bientôt midi passé de 25 minutes sur les ondes de Canal Sud en compagnie de Romain et de Simon d'Act Up. On a commencé par présenter un petit peu vos actions, un petit peu un état des lieux de cette épidémie. Et ce qu'on s'est dit avant de reprendre l'antenne, c'est que ce que vous posez, c'est que c'est une épidémie qui est politique. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que en fonction du positionnement politique, économique des individus et des groupes touchés, concernés par cette épidémie, il n'y a pas le même accès aux soins, il n'y a pas le même accès à la prévention. Quels sont justement les groupes qui sont les plus touchés par cette épidémie du VIH-Sida?
Oui, quand on dit que l'épidémie n'est pas finie et qu'elle continue, elle ne continue pas de manière égalitaire pour tout le monde. C'est pour ça que nous, on parle d'épidémie politique, parce que c'est une épidémie qui touche principalement les marges. Qui sont les groupes les plus touchés? Donc, pour répondre à ta question, c'est avant tout les hommes qui ont une sexualité avec d'autres hommes. Donc ça, c'est le groupe historiquement le plus touché par l'épidémie du VIH. Ce sont aussi parmi eux, il y a un groupe qui est particulièrement touché, ce sont les hommes qui ont une sexualité avec d'autres hommes et qui sont nés à l'étranger. Donc voilà, personne étrangère. Ce sont les hétérosexuels, on dit souvent qu'ils sont maintenant moins touchés, mais en fait si on regarde les personnes hétérosexuelles qui sont nées à l'étranger, ce sont des groupes extrêmement touchés. Et parmi eux et elles, surtout, ce sont les femmes nées à l'étranger qui sont maintenant dans les chiffres les plus alarmants en termes de découverte de séropositivité. On continue à avoir aussi des contaminations, particulièrement chez les populations tox, ou on peut dire usagers, usagères de drogue. Et il y a aussi les travailleurs, travailleuses du sexe et des personnes qu'on a souvent tendance à oublier dans les chiffres, à oublier que les épidémiologistes ont du mal à prendre en compte. Ce sont les personnes trans qui sont très touchées aussi par l'épidémie. Donc voilà, tout ça montre bien qu'une personne blanche hétérosexuelle, finalement, n'est pas la personne la plus concernée par le VIH.
Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, ce que je comprends sur ces catégories, après c'est toujours un peu moche de diviser le monde en catégories, mais en l'occurrence là, la nécessité d'une épidémiologie, elle est là. Mais en fait, c'est soit parce qu'il y a ce groupe historique des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui porte ça dans son histoire, en quelque sorte. Mais sinon, en fait, les autres groupes que tu cites, c'est des groupes qui, de par cette société hétéropatriarcale, ont un accès tout particulier aux instances médicales. En fait, c'est ça qui est à toute forme de prévention et de soins sur leur corps, en fait. C'est un peu ça qui détermine, en fait, c'est la manière dont une société va se représenter certains corps qui va déterminer l'accès ou pas à cette prévention et aux soins qui expose, au final, les personnes trans, les travailleuses du sexe, au VIH.
Ouais, c'est tout à fait ça. Puis en plus, du coup, c'est aidé par, comme on disait tout à l'heure, l'arsenal répressif des États, de l'État français, mais aussi de tous les autres. C'est quand même cet arsenal de répressif qui va cibler en particulier les travailleuses du sexe, les personnes trans de transgenre, enfin transidentité, les tox, les personnes qui sont usagères de drogue.
Et comment se manifeste justement cette répression?
En ce qui concerne par exemple le travail du sexe, tout bêtement, toutes les lois abolitionnistes qui y passent et qui sont en place, la loi de pénalisation du client, par exemple. Ensuite, le refus de... On parlait des personnes sans papier tout à l'heure, qui sont aussi la visée de la répression de l'État. On voit bien en ce moment ces situations-là. Donc, par rapport, aux personnes transgenres, il y a aussi une répression policière sur leur identité, sur... sur présentation des papiers, etc. Donc, c'est des répressions qui sont...
Centre d'enfermement, le CRA, oui.
Absolument. Et c'est aussi des répressions qu'on va pouvoir retrouver dans l'accès aux soins et l'accès aux centres de soins. Voilà. Donc,
Oui, parce que là, en préparant l'émission, je me suis un petit peu renseignée, et notamment en écoutant une émission que je vous recommande chaudement. C'est une émission qui s'appelle... Alors, l'émission en elle-même s'appelle Case Rebelle. Donc, ils se définissent comme panafro-révolutionnaires. Et en fait, c'est une interview d'un photographe congolais, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Régis Samba Kunzi, et qui raconte un petit peu, lui, tout son parcours, parce que née au Congo. Alors, j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises, je vais relire le truc, mais voilà, oui. Donc, née au Congo, venue en France, homosexuelle, un peu, lui, il raconte comment, justement, à quel point le sida et le VIH, pour lui, c'est vraiment le reflet de ces inégalités-là, comment lui, il est séronégatif, mais à quel point il est rattaché dans tous les... dans plein de pans de sa vie à cette maladie. Et il raconte aussi un peu dans son parcours que quand il est arrivé en France, il gardait en souvenir en fait cette intervention d'un militant d'ACT UP en 96 qui justement avait dénoncé, je crois que c'était à la télévision, le fait qu'on renvoyait en charter des personnes malades séropositives. Et en fait, c'est en 97, c'est un peu à la suite de ça, ça a commencé à bouger. C'est un peu à ce moment-là qu'en France, il a commencé à avoir on va dire, des dispositions légales spécifiques aux malades étrangers et notamment aux étrangers séropositifs. Et en fait, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un peu une remise en question de cet accès-là aux soins, puisqu'il y a eu une réforme en 2006, si je ne me trompe pas, ou à une autre période. Ou à une autre date, mais en fait cette réforme, en fait, elle vise à, en fait, si vous voulez, lorsque les personnes en demande d'asile, par exemple, ou les personnes qui demandent des titres de séjour passent soit par la préfecture, soit par l'OFI, en fait, si vous voulez, il y a eu un transfert de compétences dans l'attribution et dans on va dire, l'évaluation des besoins médicaux des personnes. Qui sont passés, je crois, de l'ARS ou d'institutions spécifiquement médicales à des institutions préfecture, OFI, qui sont aussi chargées de délivrer les transports et aussi la préfecture qui est globalement plus dans une dans un rôle de répression. Et c'est vrai que vous pouvez retrouver pas mal, enfin, il y a des dossiers faits par Aide sur cette question-là, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous avez, au cours de vos permanences ou au sein de votre association, des témoignages, un recul sur justement ces transformations-là et ce que vivent les personnes malades séropositives en France aujourd'hui.
Moi, je reviendrai déjà sur la question est toujours comment peut-on bien se soigner, quand ? Et comment peut-on bien se soigner, effectivement, quand on est une personne étrangère et que les politiques migratoires mises en place par l'État français font tout pour faire de nous des personnes... nous maintenir dans une situation de précarité administrative et faire de nous des personnes sans papier. Je ne reviendrai pas sur... tu as un peu développé le côté un peu technique et l'évolution... légale et administrative qui encadre le droit au séjour pour étrangers malades. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, de manière assez simple, c'est que le droit au séjour pour personnes étrangères malades, qu'on appelle aussi le droit au séjour pour soins, est un droit au séjour de plus en plus bafoué par les administrations françaises. Bafoué, c'est-à-dire le plus souvent qui n'est pas accordé, qui passe de plus en plus, quand il est accordé, il est accordé en recours. Donc c'est des personnes qu'on maintient très longtemps, en fait, dans une précarité administrative jusqu'à ce qu'il y ait un recours devant le tribunal administratif. C'est aussi, il y a une période où les personnes séropositives étrangères avaient accès, en fait, à ce titre de séjour. De plus en plus, elles n'ont plus... on leur refuse l'accès à ce titre de séjour. Et on a vu, nous, ces dernières années, de plus en plus de personnes qu'on renvoyait dans leur pays d'origine alors qu'elles étaient séropositives. Je pense aussi, si on parle d'autres politiques actuelles, au durcissement de l'accès à l'aide médicale d'État pour les personnes étrangères, qui a un impact réel, matériel, sur l'accès aux soins et sur, plus globalement, la santé des personnes étrangères en France. Voilà. Et qui, nous, impacte de très près nos activités. Ça me permet de faire le lien avec qu'est-ce qui est fait à ACT UP Sud-Ouest pour les personnes étrangères. La permanence sociale d'ACT UP de plus en plus est engorgée finalement par... je dis engorgée pour montrer en fait vraiment l'effet de vase communicant entre des politiques répressives et le travail associatif. C'est-à-dire que plus les administrations refusent et mettent en place des recours, refusent l'accès au titre de séjour, plus les associations passent un temps fou, en fait, à aider les personnes dans un parcours administratif qui est un parcours du combattant et à les aider à faire leur recours auprès des institutions, à essayer de faire en sorte de faire reconnaître leurs droits face à un État qui fait tout pour que ces personnes n'aient pas accès à leurs droits primaires.
Ouais. Contradiction du lien répression associatif qu'on observe dans pas mal de domaines. Est-ce que là, peut-être que ça peut être l'occasion de rappeler, tu l'as déjà fait, mais les horaires des permanences ?
Alors, les permanences, elles sont, si je ne me trompe pas, de 10h à 18h, les mardis et jeudis. Et en tout cas, pour...
Où ça ?
Elles sont à l'espace des diversités. Dans tous les cas, le mieux est de prendre contact avec la ligne téléphonique, la permanence téléphonique de cette permanence sociale à ACT UP. C'est un numéro... de téléphone qu'on trouve facilement sur nos brochures et sur notre page Facebook.
Je voulais rebondir, Romain, tout à l'heure tu parlais de l'exemple des usagers de drogue, usagers et usagères de drogue dans ces discriminations. Je pense que c'est peut-être intéressant de revenir là-dessus sur la dimension peut-être de culpabilisation qui peut exister comme frein au dépistage, et notamment pour les usagers de drogue stigmatiser. Alors il n'y a pas que l'usage de drogue qu'on stigmatise dans notre société, mais est-ce que tu peux revenir sur cette dimension là peut-être comme levier de la répression aussi, de la manière dont l'état dans lequel on vit peut avoir aussi des aspects très moralisateurs, paternalistes sur notamment cette question du sida, quoi.
Mmh. Eh ben oui, donc effectivement, ça c'est des personnes qui sont activement réprimées. Clairement, à ACT UP Sud-Ouest, on est pour la légalisation de toutes les drogues, ce qui, je le rappelle, ça permettrait, c'est pour pallier un peu à ces politiques répressives. Il y a la répression extérieure, et puis il y a aussi la stigmatisation qui fait que quand on est une personne tox, usagère de drogue, c'est plus difficile d'en parler. C'est plus difficile de, par exemple, d'en parler à son médecin traitant dans le cadre de l'accès aux soins par rapport à la santé sexuelle, c'est difficile d'en parler. Mais je voudrais dire aussi que c'est la même chose. Bon, on est une asso communautaire LGBT, et c'est la même chose pour... il y a aussi cette stigmatisation et cette difficulté d'en parler quand on est une personne de cette communauté. C'est pas tout le temps facile de parler de ces choses-là dans l'accès aux soins.
Et je compléterais même, on parle de discrimination, mais on voit bien dans les thèmes de campagne électorale qui sont mis en avant en ce moment, que ce n'est pas simplement de discrimination dont on parle, mais on revient, de manière très flagrante, à une criminalisation en fait de l'usage de drogue, criminalisation qui en fait, là clairement, va éloigner les personnes du soin. Si on ne peut plus en parler, si on est être usagère de drogue est criminel, évidemment qu'on n'en parlera plus, qu'on n'ira plus qu'on ne fera plus recours aux soins, et que on ne sera plus accompagner vers quelque chose qui est essentiel, en fait.
Et juste pour rebondir une seconde, puisqu'on parle de criminalisation, on a, je pense, pas parlé des personnes privées de liberté. Évidemment, ça, c'est aussi des personnes qui sont vraiment très concernées, bah, et par la répression de fait, parce qu'elles sont privées de liberté, mais aussi par l'accès aux soins, et puis ça fait partie de ces populations qui sont...
Donc les personnes en prison.
Les personnes privées de liberté, oui.
Ouais. Au sens large, du coup, prison, CRA... Mmh. Ok, tu peux continuer. Hein.
On a... Non, mais c'est bon, c'était... je voulais juste rajouter ça.
D'accord, on fait une petite pause musicale, on se retrouve juste après. Sur Canal Sud dans le magazine en compagnie de Simon et de Romain d'ACT UP Sud-Ouest pour cette journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. N'hésitez pas à vous rendre à Jeanjo Centre-Ville, voir leur stand, discuter avec eux et elles, et pas que, puisqu'il y a d'autres assos, comme on le disait en introduction. Là, j'ai en main votre communiqué de presse, là en l'occurrence pas d'ACT UP, mais de Toulouse Action Sida. Sur ce petit bout de papier, il y a vos revendications. Donc, je vais les lire et peut-être on rebondira là-dessus pour poursuivre cette discussion, cette dernière partie de discussion. Donc, le collectif Toulouse Action Sida exige le renforcement des systèmes de santé via l'accès de la case de via l'arrêt de la casse de l'hôpital public et plus de moyens financiers alloués à ce secteur. Que la lutte contre le VIH-Sida redevienne une priorité de santé publique à part entière. Le renforcement des mesures liées à la lutte contre le VIH-Sida, en particulier concernant l'offre de dépistage et l'accès à la PrEP, et ce, même en temps de Covid. L'accès à la santé garantie pour toutes, sans condition, y compris les personnes migrantes, plus de moyens pour les associations de santé communautaire, la fin des politiques abolitionnistes avec l'abrogation de la loi de pénalisation des clients d'avril 2016 et l'annulation des arrêtés municipaux en vigueur à Toulouse, et enfin une réelle politique de lutte contre les discriminations, notamment dans le système de santé. Il y a deux points sur lesquels je voudrais vous relancer. Déjà, c'est quand vous dites que la lutte contre le VIH-Sida redevienne une priorité. Redevienne, c'est vous faites allusion à quelle période et à quelle politique surtout ?
Alors, on fait allusion à une période qui serait plutôt une période des années 90. Mais là, et aussi à une période très actuelle, c'est-à-dire on a envie que... on a envie que cette épidémie-là soit autant représentée et autant médiatisée que d'autres épidémies. On a eu l'impression, c'était assez dur avec l'épidémie actuelle, que le monde entier découvrait ce que pouvait être une épidémie, alors qu'il y a 30 ans, on l'avait déjà découvert. Que on n'en est toujours pas sorti. C'est aussi une exigence en termes de budget et de moyens. Ça a été, je pense que c'était, oui, assez difficile pour nous aussi de se rendre compte que quand il y a une véritable volonté politique, des tests sont mis en place très rapidement. Tout le monde se met à être... L'incitation au test est très forte. Tout le monde se met à être testé. On a eu en un an un vaccin. C'est un arsenal énorme mis en place dont n'a pas bénéficié à la même hauteur l'épidémie VIH. Mmh.
Je peux rebondir là-dessus. On parle d'épidémie politique parce que les outils de prévention, ils sont là. On en a plusieurs. On parle de prévention combinée. Il y a effectivement les traitements qui sont quand une personne est traitée, on considère que le traitement est aussi un outil de prévention parce que faut savoir que quand on est sous traitement, on a une charge virale qui devient indétectable et que quand on a une charge virale indétectable, il est impossible de transmettre le virus. Donc je rappelle ça ici. C'est la grande campagne de indétectable égale intransmissible. Il y a aussi d'autres outils. Il y a la PrEP qui est un traitement de prévention qui marche.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche peut-être ?
Oui, alors c'est une prise de traitement qui peut varier en fonction des personnes et des médecins qui vont conseiller ce traitement-là. Et ça, c'est...
On le prend dans quelles conditions on est amené à...
Donc on dit que c'est un traitement... Excuse-moi. On dit que c'est un traitement qui est pré-exposition, c'est-à-dire que... Donc exposition, là, c'est un rapport sexuel, par exemple, c'est un traitement qu'on prend en avance pour garantir que le virus ne peut pas se transmettre.
Quand on est sûr de pécho le samedi soir.
Voilà.
C'est à peu près ça. Il y a plusieurs modalités de... On peut ne pas rentrer dans les détails techniques. Il y a plusieurs modalités pour le prendre. Ce qui est important à dire, c'est que c'est vraiment un outil très efficace pour lutter contre les contaminations. Et que c'est un outil qui devient de plus en plus accessible. C'est-à-dire qu'avant, il n'était prescrit qu'en milieu hospitalier, que maintenant il peut être prescrit par n'importe quel médecin généraliste depuis juin. Encore faut-il que le corps médical s'en saisisse. Encore faut-il aussi que les personnes, tout simplement, aient l'information sur la disponibilité de ce... De cet outil.
On voit bien qu'il y a une volonté politique de pas vraiment en faire la publicité, de pas vraiment en parler de ces moyens de prévention.
Par exemple, moi je me souviens, j'ai l'impression que j'ai grandi dans les années 90 et je pense que j'ai eu accès d'une certaine manière, même si c'était, enfin, cette prévention contre le VIH. Ça fait un certain temps que je suis pas retournée à l'école, mais aujourd'hui dans les écoles, on en est, dans les collèges, on en est où de cette prévention?
Alors je vais simplement finir sur les autres outils.
Pardon.
Et ensuite je réponds à ta question. Pour finir sur les autres outils de ce qu'on appelle la prévention, prévention combinée, ça veut dire qu'on peut utiliser plusieurs outils en même temps. Enfin, c'est pas et suivant les cas et suivant les parcours de vie. Les deux autres outils, il faut quand même rappeler le préservatif, hein, ça reste un outil, voilà, comme c'est la petite blague pour les années 90. Et le traitement post-exposition. Le traitement post-exposition, on en parle beaucoup trop peu. C'est un traitement d'urgence qu'on peut prendre dans les 48 heures après une prise de risque. En se présentant dans un service d'urgence de l'hôpital public.
Ok.
C'est aussi hyper discriminant, c'est-à-dire que vraiment pas tout le monde a accès à ça. Donc c'est aussi voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait que ça bouge un petit peu, qu'on en parle plus, etc.
Comment ça, tout le monde n'a pas accès à ça? Si par exemple là, les auditeurs auditrices, se présentent.
Eh ben, faut savoir que si on est par exemple une femme hétérosexuelle, on n'aura aucune chance d'avoir ce traitement.
Okay.
Il sera refusé.
D'accord.
Okay. C'est un traitement qui est encore perçu comme beaucoup trop exceptionnel, comme l'était la PrEP au départ. La PrEP, donc le traitement préventif, on le réservait à vraiment une très petite partie de la population. Parmi les groupes qu'on estime les plus exposés au VIH, il en va de même pour le TPE, où on fait le même distinguo. Quand les médecins estiment que nous ne sommes pas parmi les groupes les plus exposés, certainement ce traitement ne sera pas délivré. Ce qui me permet...
Excuse-moi, tout ça pour dire que quand on parle de santé sexuelle et de VIH-SIDA, on parle souvent de prise de risque et c'est tout le temps très morose, etc. On a tous ces outils-là qui nous permettent d'avoir une sexualité joyeuse. Et moi, j'aimerais aussi mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas que du risque et c'est pas que quelque chose de morbide. Et on peut avoir une sexualité joyeuse avec ces outils et ils sont disponibles. Malheureusement, il y a une volonté politique de pas en parler. Voilà, on est ici pour en parler.
Et tu parlais des écoles, c'est peut-être...
ne t'enflamme pas, on tente.
Il y a un bon côté, enfin on peut parler de joie, et un mauvais côté, c'est-à-dire le bon côté, c'est que quand il est abordé, le VIH fait beaucoup moins peur, mais peut-être plus assez, dans le sens où... Du coup, c'est l'information autour des outils de prévention, etc., dans les écoles est un peu minorée et voilà, il n'y a plus un accent et une explication assez développée qui se fait autour de ces outils-là. Et le côté... Donc ça, c'était le côté positif. Le côté négatif, c'est que voilà, il vient de même, c'est que l'information ne passe plus vraiment. On n'en parle plus du VIH aujourd'hui, et je pense que
alors que des outils de prévention, on en a.
Alors que des outils de prévention, on en a, et alors que l'épidémie continue.
Et justement, sur ce point un peu en conclusion, dans les discussions un peu qu'on a eues en introduction, il y avait cette envie d'insister sur le fait que les outils existent. Mais peut-être, oui, on pourrait parler, parce que là, dans vos revendications, vous dites plus de moyens pour les associations de santé communautaire. C'est le moyen d'exister, de pouvoir être nombreux, et que ce travail militant qui est souvent... ultra prenant, hashtag burnout militant ou pas, mais enfin, tout ça pour dire que vous regrettez de ne pas être assez visible, notamment ACT UP, dans l'espace public, dans l'espace politique.
Je sais pas si je pense qu'on est visible quand même.
Ouais.
Après, moi, je pense ce qu'il faudrait faire passer, c'est d'arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues. de nous laisser travailler en tant qu'asso communautaire et de prendre notre point de vue comme une expertise. On est une asso communautaire de personnes usagères, de personnes séropo, de personnes tox. Prenez-nous en compte. En tout cas, on est là. Puis si vous ne nous entendez pas, on va faire plus de bruit.
Et du coup, du bruit, on en fait quand? On en fait du coup toute cette après-midi sur le parvis Jean Jaurès à 18h pour une manif dont le parcours a été déposé. Ce sera
qui en tout cas commence à Jean Jaurès.
Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi des événements ce week-end où je me suis mal renseignée?
Oh, vous semblez très bien renseignée. nous avons une soirée de soutien qui va se passer samedi soir à partir de 21h au Moloko, en centre-ville.
C'est quoi le Moloko?
Le Moloko, c'est un petit bar. Voilà.
D'accord.
Au Carme.
C'est au ça Carme, voilà, où il y aura de la musique, un stand de l'association. C'est un bon moyen de soutenir l'asso puisque on aura un petit prix libre à l'entrée, le moyen d'acheter des t-shirts. C'est des moyens pour nous de soutenir nos actions. Et du coup, on vous attend nombreux et nombreuses lors de cet événement.
Et en effet, on a quand même le temps pour un mot de la fin, sauf si on a terminé et qu'on passe à autre chose, en attendant de se retrouver ce soir et samedi.
Eh bien, je vais simplement reprendre le mot d'ordre du collectif Toutes les Actions SIDA pour le mot de la fin, qui est très simple, mais clair. Le SIDA est toujours là. Stop aux inégalités de santé, stop aux discriminations et stop à la répression.
Merci à vous, passez une très bonne journée. Merci d'être venu dans les locaux de Canal. Merci. Et aujourd'hui, le magazine va se terminer un petit peu plus tôt que prévu puisqu'on va diffuser deux cartes postales sonores qui ont été produites en association avec les radios libres d'Occitanie. Mais on se retrouvera juste après, sûrement avec une chronique de Liana, et à 14h, le rendez-vous avec les lessiveuses. Physically fit, touching you, I wanna taste of it. Bone my brow, wanna feel my grit. People in the Bronx wanna take a trip. Physically fit, touching you, I wanna taste of it. Bone my brow, wanna feel my grit. People in the Bronx wanna take a trip. She wanna ride from you. Me, I won't feel worry, only one and two. When I see you flying out of Timbuktu, chucking all the money from the tree I grew. I know she teared his eyes from you. Caught me in the middle of the ball I threw. If you want me bowing to the glass I drew, I could melt the colors if it stained on you. Time up from me, crystal calibrates around me. Nice or nice or naughty. So nice on my tea. County cooking old school county. Physically fit. Catch you in your eye, wanna taste of it. Boom, 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 wanna feel my grit. People in the Bronx wanna take a trip. Rocket on a compact disc. Pussy in a pocket full of poem and piss. E-I-E-I, home, want my kiss. Pick up, dig out, home, what's your bliss? Anytime I do a shorty pop for me. Lights go flash, guns go blast, and we have in this glass.
your head in my lap.